France Inter. Le 7-9.
7h51, votre invité Léa Salamé est paysan, écrivain et philosophe.
Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Longtemps vous avez prêché seul dans le désert. Aujourd'hui on n'a jamais autant parlé des dangers du glyphosate, des perturbateurs endocriniens, des effets pervers du CETA. L'écologie est au cœur de la cité aujourd'hui. Vous avez gagné?
Non. C'est loin d'être gagné, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Déjà, ce qu'on a gagné, c'est que les gens, au moins, commencent à comprendre que on détruit pas la vie et prétendre vivre. Si on détruit la vie, on mourra, c'est tout. Et donc, l'écologie ne devrait même pas être, disons, un parti politique. J'ai mon ami Hulot, que j'aime beaucoup, et heureusement qu'il est là. Mais en fait, l'écologie, ça devrait être une conscience. Ça devrait être enseigné aux enfants dès tout petits. On devrait leur apprendre qu'ils doivent respecter la vie s'ils veulent vivre.
Il est utile au gouvernement, votre ami Hulot? Quand on voit que CETA va être finalement ratifié, encadré mais ratifié.
Écoutez, je prends le Hulot ami, si vous voulez, avec lequel nous avons rédigé un ouvrage, parce que nous avons des convergences importantes d'idées et d'approches avec des variantes en fonction là où on est. Mmh. Il se trouve au gouvernement, écoutez, j'espère qu'il aura la possibilité de faire évoluer les choses au mieux.
Alors sur le glyphosate, justement, un des sujets de Nicolas Hulot, la France défend finalement une interdiction de ce pesticide d'ici 4 ans pour permettre aux agriculteurs qui l'utilisent de préparer la transition. 4 ans, ça vous semble raisonnable ou trop long?
Non, parce qu'il y a une inconscience totale de l'humanité tout entière qui est sur une planète vivante. Sur cette planète vivante, ça fait longtemps qu'elle commet des exactions en permanence, le glyphosate. Évidemment, on fait une espèce de scoop autour de choses, mais il n'y a pas que le glyphosate.
Glyphosate,
j'ai du mal à le prononcer. Il y a une multitude, si on faisait le catalogue des nuisances, ce produit aurait sa place parmi des milliers, des centaines, au moins des milliers de produits nocifs et destructeurs de vie. Mmh. Donc, il ne faut pas simplement rajouter un truc au catalogue en disant, donc il doit se traiter, mais en fonction d'un esprit, d'une intelligence. Or, il n'y a pas d'intelligence. Les êtres, si vous avez des extraterrestres qui nous étudient, je vois vraiment pas comment ils peuvent conclure que nous sommes intelligents. Nous avons une planète magnifique, nous n'arrêtons pas de la détruire, de polluer, de fabriquer des armes, de nous entretuer, etc. C'est une catastrophe écologique.
Oui, mais les agriculteurs qui vous disent, qui se sont pointés du doigt depuis quelques semaines, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils vivent avec 350 euros par mois, ils souffrent pour subsister, et qui vous disent, mais moi j'ai besoin du pesticide, j'en ai besoin, le glyphosate en l'occurrence est efficace et pas cher, j'en ai besoin.
On est dans une société, on organise un système, on l'organise d'une façon erronée, et ensuite il faut amener les correctifs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'agriculture est une agriculture de la production, de la surproductivité, qui amène à donner beaucoup plus d'importance aux protéines animales. Donc il faut beaucoup produire des protéines végétaux pour pouvoir satisfaire aux besoins des protéines animales dont on est devenu boulimique. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrête pas de mettre des rustines et des trucs sans aller à la racine du problème. Tant qu'on n'ira pas à la racine du problème, ça sera des rustines, et puis on constatera une dérive aujourd'hui, le lendemain il y en aura une autre, etc. C'est pas comme ça, je crois que ce qui est intelligent, c'est de démontrer qu'on peut vivre à la puissance de la modération. C'est-à-dire la modération en tant que vraiment, on est beaucoup plus puissant à être modéré qu'à être dans un toujours plus indéfini qui, en fait, ne génère même pas de la satisfaction parce que les gens sont dans la surabondance et consomment de plus en plus d'anxiolytiques.
Enfin, Pierre Rabhi, il y a des gens qui sont dans la surabondance et qui sont heureux, non ?
Il y a des gens qui... Je travaille en Afrique, il y a des villages entiers où les gens passent leur temps à rigoler. Puis on arrive ici, on a normalement tout ce qu'il faut pour être heureux. Et je cherche, bien sûr, heureusement qu'il y a ici ou là des gens heureux, mais je veux dire, la logique elle-même, c'est-à-dire sur laquelle on a fondé notre civilisation, ce qu'on appelle une civilisation, cette logique elle-même consument les êtres humains, les consomment, les consument, prend leur temps et leur durée pour en faire du profit. Et puis voilà. Et puis il y a le carrousel des gens qui arrivent, qui ont une carrière, qui ensuite leur retraite disparaît, etc. Et puis finalement, est-ce que c'est une logique humaine?
C'est une logique libérale, c'est une logique individualiste, c'est la logique dans laquelle on est.
Oui, logique. Je veux dire, on est tous en quête de bonheur. Et moi, ce bonheur, je le vois pas. Voilà. Alors, bien sûr, on multiplie les diversions, mais le bonheur, c'est-à-dire cette qualité de vie qui vous permet de dire comme on est heureux d'être en vie, ben celle-là, malheureusement, elle est noyée dans des fatras d'habitude, d'insatiabilité permanente. On a ça, on veut autre chose, et puis le bonheur n'est pas là.
Vous êtes aussi critique des excès inverses, les produits sans lactose, sans gluten, sans protéines. Vous dites, je suis rentré dans des restaurants où la radicalité alimentaire était de mise et j'ai vu des gens tristes.
C'est-à-dire que si vous voulez, quand les choses deviennent obsessionnelles, c'est-à-dire que quand on a l'obsession, surtout pas toucher un bout de beefsteak, rien du tout, finalement le bonheur escompté ou la logique escomptée pour nous donner une certaine satisfaction n'est pas là. Et du coup, ça devient obsessionnel. Si vous devez manger un beefsteak, mangez un beefsteak et soyez heureux, quoi. Je veux dire, c'est pas le problème.
Donc, ni la surabondance d'un côté, ni la radicalité de l'autre.
Non, il y a un équilibre à trouver, et cet équilibre doit permettre, surtout, on est tous en quête d'un certain bonheur d'exister. Et ce bonheur d'exister, on ne fait que la journée, le repousser, parce qu'on veut toujours plus, parce qu'on n'est jamais satisfait, etc. Voilà. C'est ma petite philosophie, à prendre ou à laisser. Hein. Ouais. Je suis pas en train de donner des leçons à qui que ce soit.
Vous prenez le retour à la terre pour être heureux, pour échapper aux excès du monde. Le jardin oblige à la patience, dites-vous, parce qu'on est obligé d'attendre pour récolter ce qu'on a semé. Mais comment on fait, Pierre Rabhi? Comment on fait pour résister à la frénésie du monde quand on n'a pas de jardin?
C'est-à-dire que ça, c'est une question de politique globale. C'est pas simplement quelque chose. C'est la nation a-t-elle défini son mode de fonctionnement en intégrant évidemment toute la part qui est la part de l'agriculture, de la terre, qu'on est en train de détruire d'ailleurs, on est en train vraiment de détruire. Les semences, par exemple, vous savez que depuis l'avènement de l'agriculture, ça veut dire 10 à 12 000 ans, où l'homme est devenu agriculteur, il a collecté des semences dont il a fait le patrimoine transmissible de génération en génération. Aujourd'hui, ce patrimoine, il est entamé à raison de 75%. Alors on introduit des chimères, on introduit des OGM, on introduit toutes ces falsifications qui sont amenées finalement, qui sont déterminées simplement par la boulimie du gain. Et puis voilà, on ne tombe pas amoureux d'un produit national brut.
Pierre Rabhi, vous avez 79 ans, vous publiez un livre coécrit avec Claire Guermont, avec des beaux dessins de Marc Nguessan. Pierre Rabhi, l'enfant du désert, ça raconte votre vie depuis votre naissance en Algérie jusqu'à aujourd'hui en Ardèche. Quel est le message, s'il y en avait un, que vous voulez délivrer? C'est un livre pour les enfants, mais enfin pour tout le monde. Un message que vous aimeriez délivrer, un seul.
Vous savez, le seul message qu'il puisse y avoir, c'est que soyons en accord et en harmonie avec les lois de la vie. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on est en accord avec les lois de la vie, plutôt que de la détruire, eh bien à ce moment-là, on se met vraiment des chances d'être en équilibre avec la vie. Et à ce moment-là, c'est la seule voie par laquelle on peut être heureux.
Merci Pierre Rabhi d'avoir été avec nous ce matin. L'Enfant du désert, c'est aux éditions Plume de Carotte. Et puis il y a un autre livre qui sort, Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. C'est votre collection Carnet d'alerte, un troisième Carnet d'alerte qui sort le 15 novembre prochain.
Qui est réalisé par Juliette Duquesne.
Avec vous. Merci. Voilà. Belle journée.
Merci à vous Léa.